Un autre rendez-vous de votre émission préférée sur Canal FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous informer à travers Club de la Presse. Michel Tomega à la technique assure la mise en onde. Vous suivez cette émission sur les différentes plateformes digitales de Canal FM grâce à une mise en ligne de Jéro Akucha. Club de la Presse est également suivi à l'intérieur du pays à travers Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takamé, Central FM Sokoré, Radio Daoul Bassar, Sama FM Nyamtougou et Radio Courtoisie d'Apaon. Le panel de ce jour est composé de Michel Tchadia du journal Ouara les Vainqueurs. Bonjour Michel.
Bonjour mon frère, bonjour confrères ici présents et puis bonjour Canal FM.
Elom Atisogbe du journal La Nouvelle Tribune. Bonjour Elom.
Bonjour, bonjour Fousseni, bonjour à tous les confrères en studio, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Bonjour aux techniciens et bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous.
Jean Legrand Polorigny du journal Canal D. Bonjour.
Bonjour Fousseni, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux auditeurs et auditrices du Club de la Presse de Canal FM.
Et puis Magloire Teko de Flambeau des Démocrates. Bonjour.
Bonjour à toi Fousseni, bonjour chers confrères et bonjour Canal FM.
Nous allons consacrer quelques petites minutes à l'art avec une invitée. Et vous saurez de qui il s'agit dans un instant. Moi-même, je me nomme Fousseni Saïbou. Je profite de l'occasion pour envoyer un salut fraternel à un de nos plus fidèles auditeurs. Il se nomme Crépin Mietib Kolani, qui nous suit depuis le quartier Kakaveli à Gwenivé. Et à travers Crépin, nous saluons tous les autres Wawa qui nous suivent depuis d'apparent. C'est de la part de leur chef ici. Merci de votre fidélité à ce programme. Le débat démarre dans quelques instants. Alors, le gouvernement togolais avait annoncé le mercredi 5 janvier 2022 le plafonnement de la caution et de la garantie du bail d'habitation à 6 mois de loyer. Ce projet de décret qui est censé mettre fin à la spéculation qui a cours dans le secteur du logement au Togo a fait donc un an, le 5 janvier dernier. Le journal Canal D s'en souvient et pose une interrogation. Urbanisme, réglementation de la caution de loyer et du bail d'habitation un an après, qu'est-ce qui a changé? Jean Legrand Polorigny, depuis ce décret, est-ce que vous avez vu, perçu des changements?
C'est l'objectif de cet article, vous savez, depuis le 5 janvier 2022, aujourd'hui ça fait un an révolu que le décret a été pris. Nous étions parmi ceux qui avaient salué cette initiative du gouvernement, qui, on se disait enfin on sent que le gouvernement touche au cœur des besoins des populations, parce que vous savez que le problème de logement, il est très vieux et à Lomé, c'est le déplacement et le logement qui sont fondamentalement les besoins prioritaires des populations. Et en plafonnant la caution à 3 mois, la caution de loyer de garantie à 3 mois chacune, nous nous disions qu'enfin, ceux qui n'ont pas encore de chez à Lomé pourrait vraiment soupirer, parce que la mesure concernait uniquement le Grand Lomé et les 13 communes pour le moment, le temps d'expérimenter et voir ce que ça va donner à l'intérêt. Mais un an après, on s'est posé la question de comprendre, mais est-ce qu'on a eu un avancement ou qu'est-ce qui s'est passé finalement? Et le constat sur le terrain amer, il faut dire que fondamentalement, rien n'a changé, parce que c'est toujours les mêmes taux qu'on applique à tous ceux qui veulent louer aujourd'hui des habitations. Vous arrivez, on vous demande 10 mois ou un an. Et si pas méga, vous osez dire au propriétaire que le gouvernement a pris un décret, il dit « Ok, mon frère, je ne loue plus ma maison. » Donc, tu débarrasses le plancher ou tu dis tu vas le convoquer. Tu te rends compte que même ça va t'épuiser le fait d'enclencher cette procédure. Et ma foi, soit c'est ceux qui ont les moyens qui continuent, ou soit quelqu'un d'autre vient dire « Bon, maisonnier, tu dis 10 mois, moi j'apporte 15 mois. » Et le gars, finalement, il repart bouche bée. C'est une situation vraiment, on se pose la question de comprendre pourquoi on prend des décrets. On dirait que c'est des effets d'annonce. Les gens se réjouissent, mais finalement, vu l'inexistence, on vient dire l'inaccessibilité des logements sociaux que le gouvernement a prévu depuis des années, parce qu'il n'y a pas de logements sociaux, les gens sont toujours tributaires de ces maisonniers véreux qui aujourd'hui ne veulent pas lâcher du lest. Quand vous approchez certains, ils vous disent non, aujourd'hui, le ciment coûte cher, les matériaux coûtent cher, nous ne pouvons pas construire nos maisons et les cautionner avec 3 mois, il faut qu'on puisse récupérer une partie. Nous nous disons actuellement, il faut que le gouvernement revienne sur cette décision. On ne peut pas prendre une décision que ce soit simplement un effet d'annonce et que tout le monde soit content et puis un an après,
c'est le statu quo, rien n'a bougé. Vraiment, c'est une interpellation que nous faisons aux autorités, vraiment à chaque de l'urbanisme, que des mécanismes soient mis en place pour que cela puisse être respecté.
D'accord. Magloire Teko, il faut quand même reconnaître que la mise en œuvre de cette décision ne va pas être facile. Hein. Des gens qui sont habitués à percevoir jusqu'à 24 mois de caution, ils ne vont pas s'y plier aussi facilement.
Non, mais écoutez, je crois quand même que Jean, il a bien fait de relancer le débat. Vous vous rappelez qu'il y a un an exactement, lorsque la mesure a été prise, nous avons passé le plus clair de notre temps ici, n'est-ce pas, à diagnostiquer un peu cette mesure, surtout à demander, ben, qu'adviendrait-il dans les jours à venir? Parce que une chose est de prendre une mesure, mais l'autre chose est de la mettre en application. Et vous vous rappelez que lorsque la mesure a été prise, eh bien, on a eu, n'est-ce pas, des alanguissements au niveau des propriétaires, qui ont dit à l'époque à qui voulait l'entendre que, ben, ah oui, d'accord, le gouvernement, il a pris, ses décisions, ses mesures, mais on attend, les maisons nous appartiennent. Voyez-vous? Et donc, si aujourd'hui, un an après, on se rend compte donc que rien n'a été fait, pour nous autres, ça ne nous surprend pas. Vous savez, moi je me dis, l'homme politique, il a toujours des visées, des agendas peut-être cachés, mais il revient à tout et chacun de vouloir scruter au mieux, n'est-ce pas, chaque décision prise par un politique. Parce que, voyez-vous, lorsque on décide, n'est-ce pas, de plafonner le coût les locations, c'est une très bonne chose, comme Jean l'a dit. Parce que, comme la plupart des Togolais aujourd'hui, c'est vrai, le premier souci, c'est de se tailler un chien. Ceux qui ont les moyens parviennent, n'est-ce pas, à construire une maison, mais la majorité qui n'en ont pas, évidemment, ils sont des locataires. Mais si tant est que on veut travailler, n'est-ce pas, pour apporter cet appui-là, n'est-ce pas, aux populations qui sont dans le besoin, pour nous autres, l'idéal, c'était de créer un cadre de discussion d'abord avec les propriétaires de maisons, voir comment est-ce qu'on peut mettre en application cette décision et surtout voir au niveau du marché comment est-ce qu'on peut faire un peu fait peut-être pour exonérer, je ne sais pas, mais il y a plusieurs mécaniques qui pouvaient être entrepris en amont. Parce que quand on veut construire une maison, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, le ciment, tout ce qui est la ferraillerie et tout. Mais si vous ne décidez de rien pour ce qui est du marché, des produits sur le marché, même vous débarquez un bon matin pour dire nous plafonnons, oui, c'est beau, ça fait effet dans la foule, mais en réalité, ça aura beaucoup de difficultés à se mettre en œuvre. Et donc, c'est ce que nous constatons. Et pour moi, je crois que c'est un peu dommageable parce que un gouvernement, c'est quand même un gouvernement. Quand vous prenez une décision, normalement, ça doit prendre effet. Mais ça, si ça ne prend pas, c'est qu'il y a un problème. Où est le problème? Il faudrait qu'on le diagnostique et essayer de le résoudre.
Merci à toi, Magloire. Alors, Michel Tchadia, qu'est-ce qui devrait suivre après cette décision? Est-ce qu'il fallait d'abord sensibiliser les gens avant de passer à son application ou il fallait directement mettre la loi en application?
Sensibiliser les gens pour leur dire quoi? Bon, c'est une décision gouvernementale en principe, elle entre en jeu. Mais vous savez, à l'époque, il y a deux propriétaires de maisons qui m'ont dit que ce serait des mesures difficilement applicables. Et le temps avançait et bon, j'ai vu que c'est eux qui ont raison. Parce que je me suis posé la question, quels sont les moyens dont disposait l'État pour pouvoir faire respecter donc ces mesures-là. Et j'ai observé de tous côtés, je n'ai pas vu grand-chose. Bon, le gouvernement a pris une décision. Bon, le péché originel chez nous au Togo, c'est parce que depuis l'indépendance, la terre appartient aux collectivités qui la vendent à qui elles veulent, qui construisent ce qu'ils veulent et où ils veulent. Ce qui fait qu'au Togo, vous allez voir quelqu'un qui est dans pratiquement une baraque et à côté, quelqu'un qui est dans RDC plus 3-4. Et bon, ça dit que il y a un désordre qui a régné pendant de longues années dans le domaine de l'urbanisme au Togo, il faut le dire. Pardon. Et aujourd'hui, malgré la bonne volonté des autorités de
régler ce problème.
Oui, en tout cas, d'essayer d'orienter d'une manière ou d'une autre cette façon de faire, c'est un peu compliqué. Hein? Parce que quelqu'un qui a acheté son lopin avec le coût des matériaux qui ne cesse de grimper de jour en jour, qui se bat, qui fait des prêts sur prêts, il construit, et après, bon, il veut rentabiliser. Le gouvernement dit non, tu dois plafonner ça. Bon, je ne sais pas à ce dernier comment on peut l'amener à vraiment s'exécuter. Moi, je me pose beaucoup de questions.
D'accord.
Ce qui fait que, bon, le désordre continue. L'article, Jean a bien fait de revenir sur ça. C'est un constat. C'est une mesure qui est passée inaperçue. Les gens font ce qu'ils veulent. Vous arrivez quelque part, les gens, c'est un an, deux ans, et bon, c'est 10 mois. Ça continue. Donc, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le gouvernement peut se prendre pour faire plier les gens, parce que les gens se disent, c'est moi, je me suis serré la ceinture pour avoir mon local et je le loue à qui je veux, au taux que je veux, mais ce n'est pas au gouvernement de venir m'intimider ou de me donner. Donc c'est un peu compliqué. À partir du moment où la terre appartient aux collectivités, je le répète, en Côte d'Ivoire, cette mesure peut passer facilement. Au Burkina, où la terre appartient à l'État, ça peut passer facilement. Mais
au
Bénin, mais quand la terre appartient aux collectivités, c'est un peu compliqué.
D'accord, merci Michel. Alors, Elom Atisogbe, le gouvernement ou bien l'administration peut elle-même donner un exemple. Aujourd'hui, on voit des mairies qui construisent des baraques autour des marchés, un peu partout, même la chambre du commerce. On pouvait appliquer cette loi à partir de là. Bon, ça pouvait motiver certains à suivre le pas, n'est-ce pas?
Non, je crois que Michel a bien caricaturé la situation, parce que aujourd'hui le problème, on doit partir du constat selon lequel la terre appartient aux collectivités, c'est pas l'État. Bon, du moment où la terre appartient aux collectivités, qu'est-ce qu'on fait? On réunit les collectivités, comme Magloire l'a dit, on discute avec les gens, on leur dit on veut aller à tel résultat, compte tenu du fait que on constate que la vie est chère, les gens ont de plus en plus de mal à trouver un logement, et le crédit immobilier même dans les banques aujourd'hui est problématique, parce que vous avez des gens qui, au niveau même des entreprises, quand vous interrogez des emplois aujourd'hui des entreprises, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est le crédit immobilier. Maintenant, à quel taux ils vont rembourser, ça aussi c'est un autre problème. Si vous ouvrez ce débat maintenant ici, à 20 ans, même, on n'a pas fini. Parce qu'il y a plein d'auditeurs qui vont appeler, qui ont le même problème, le crédit immobilier, qui ont des difficultés de remboursement. Donc, aujourd'hui, je crois quand même que un an après l'entrée en vigueur de cette loi, le constat est le même. Les propriétaires de maisons, de boutiques, surtout les boutiques, parce qu'aujourd'hui, vous avez une petite boutique de 4 mètres carrés, les gens vous disent 50 000, 60 000. C'est ça même le problème encore au Togo maintenant. Ce n'est plus les chambres, ce n'est plus les appartements, c'est les boutiques. Quelqu'un a un petit espace quelque part, et puis il vient, il retape et tout, et puis il vous dit 60 000, 70 000, parce qu'il a mis entre-temps une baie vitrée, il met voilà une grille, et puis ils disent que bon, c'est modernisé, voilà.
Et surtout quand la route, une nouvelle route passe devant,
c'est fini. Et c'est le malheur aujourd'hui des gens qui sont sur la route de Ségbé, parce qu'en temps, on a goudronné. Donc, toutes les boutiques qui étaient à 20 000, 25 000 sont passées à 50 000, 60 000. Et donc, ça, l'État n'a pas réglementé, par exemple. Mais c'est ce qui est dangereux. Maintenant, l'autre aspect, c'est les coûts des matériaux de construction. C'est vrai que le ciment n'a pas augmenté jusque-là, mais le fer à béton a augmenté, d'accord? Une augmentation allant jusqu'à 35 %. Le gravier a augmenté. Le sable de mer... Aujourd'hui, vous n'avez plus... D'abord, c'est difficile de trouver du sable de mer. Et ceux qui vendaient des camions de 10 roues, de 6 roues d'abord, de 12 roues, qui sont passés aujourd'hui entre 80 à 120 000 francs, et vous avez le carburant. Tous les camions tournent au géo. Le géo, c'est le diesel. C'est à 800 francs, 850 francs le litre. Comprenez? Quand vous mettez du géo 50 litres la journée, pour faire un transport de... Parce que les camions, c'est trois voyages. Je donne tous ces détails pour que les gens puissent avoir une idée de ce qui se passe en termes de peut-être de construction pour les propriétaires. Quelqu'un vous dit, bon, j'ai un camion qui va faire peut-être trois voyages par jour, il met du géo, du diesel, 50 litres, fois 850 francs le litre, vous avez le tarif. Maintenant, vous voyez tous ces coûts aujourd'hui entrent dans la construction. Mais vous comprenez que le propriétaire ne peut pas vouloir s'asseoir dans son canapé. Que le locataire à venir va lui dire, bon, parce que l'État a dit 6 mois, allons-y. Non, il faudrait aussi les comprendre d'un côté, d'accord. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui exagèrent. Il y a beaucoup de propriétaires qui exagèrent. Malheureusement, la dernière fois, j'ai eu la chance d'écouter une histoire où le propriétaire dit qu'il va louer aussi le garage au locataire. C'est-à-dire, on vous loue la chambre en bas. Non, c'est-à-dire, le locataire était venu d'abord prendre une chambre salon, laisser douche interne, et il s'est acheté une voiture au bout de 6 mois. Et le propriétaire dit, mais je vous loue aussi le garage. Vous comprenez?
Mais c'est ce qui se passe généralement.
Oui, mais c'est que ça, c'est un problème. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un vient louer une maison ou une chambre et on lui loue le garage à part? C'est-à-dire, on vous loue la chambre à part et on vous loue le garage à part. Mais c'est aberrant, à la limite. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Parce que le garage n'est pas à l'extérieur de la maison. Le garage est aussi de la maison, dans la maison. Et donc, celui qui bénéficie d'un bien bénéficie des avantages de ce bien. C'est ça l'usufruit. Vous avez la chambre et vous profitez du garage. Vous profitez, vous gardez votre moto, votre voiture, votre vélo, ce que vous avez. Donc, il faut que l'État, un an après l'entrée en vigueur de cette loi, discute avec les propriétaires, discute avec les mairies, parce que les maires doivent veiller à l'application de cette loi. Et les maires, c'est eux qui doivent inviter les responsables de maisons ou les propriétaires de leur commune pour leur expliquer et voir dans quelle mesure ils vont asseoir les bases de l'entrée en vigueur effective de cette loi.
D'accord. Merci à vous tous. Nous passons rapidement à un autre sujet. Le ministre Komlan Dodikokoroko poursuit ses efforts en vue de mettre de l'ordre dans le secteur de l'éducation. Alors, certaines de ses décisions sont comprises et même saluées dans l'opinion, d'autres non. C'est le cas de cette décision qui demande aux promoteurs d'établissements scolaires privés de faire parvenir à son cabinet les permis de construire et les caractéristiques techniques de leurs bâtiments scolaires. Le ministre hausse le ton face à certains qui auraient refusé de le faire et les avertit qu'ils s'exposent à des sanctions s'ils ne s'exécutent pas d'ici la fin de ce mois. Alors, Jean-Legrand Polorigny, est-ce que cette décision n'a pas pour objectif principal de garantir la sécurité des apprenants? Rappelez-nous un peu ce qui s'est passé à Sautoubois, des élèves qui sont décédés dans des bâtiments qui se sont effondrés.
Effectivement, tu fais bien de le rappeler. Moi, je dis qu'aujourd'hui, l'éducation a un nouveau visage, et ceci grâce au ministre Kokoroko qui est en train de faire notamment de nouvelles réformes. Les réformes font mal, mais parce qu'il y a un changement, mais il faut quand même qu'on avance. Vous savez, pendant longtemps, surtout dans le secteur des écoles privées, il y a eu un laisser-aller. L'État a laissé ses promoteurs gérer le business comme ils le veulent. Pourtant, c'est l'éducation des gens, c'est la vie des apprenants qui est en jeu. Vous imaginez certaines écoles qu'on construit, on ne sait pas comment ça a été fait, mais il y a tellement d'élèves et beaucoup, les structures ne sont pas en place comme cela doit être. Mais parce que le gars a un agrément, voilà, il a son école comme il veut, parfois c'est les clés et tout. C'est dire qu'aujourd'hui, le gouvernement est soucié de la sécurité des apprenants. Et moi, je salue cette mesure parce que il le fallait. Depuis longtemps, il y avait trop de laisser-aller. Et que ceux qui ne veulent pas se conformer soient sanctionnés. Parce qu'on ne fait pas ça contre eux fondamentalement, mais on le fait pour que le désordre qu'il y avait eu revienne dans l'ordre. Mais comme les gens sont tellement habitués au désordre, ils veulent continuer dans le désordre et ne veulent pas, s'aligner sur les normes. Ça fait longtemps dit que non, notre éducation, ça ne va pas, il faut qu'on ajuste les choses. Tout le temps, nous nous plaignons, mais aujourd'hui, qu'il y a un réformateur qui est en train de mettre les rails, les gens sont en train de se plaindre encore. Moi, finalement, je me demande qu'est-ce que le Togolais veut à la fin. Il faut que les gens se mettent dans les rangs, et moi, je soutiens à 100% cette décision-là.
D'accord. Alors, Magler Teko, la question qu'il faut se poser, c'est, avant de construire, beaucoup ne prennent pas la peine de faire les démarches nécessaires pour obtenir le permis de construire. Bon, maintenant que la décision est sortie, quel va être leur sort? Parce qu'ils ne seront pas capables de fournir les documents nécessaires.
Ben, ça voudra dire que logiquement, ils tombent sous le coup de la loi. Et voyez-vous, je crois que c'est quand même intéressant. Il faut y aller un jour. Parce que quand vous avez, sous la main la protection de la vie humaine, notamment des apprenants, c'est un devoir assez sacré. Et il faut se munir de toutes les précautions possibles, de toutes les attentions possibles. Et pendant longtemps, qu'est-ce que nous constatons en ville, c'est que quelqu'un qui réussit à avoir des financements ou des fonds construit des maisons à étage à combien de niveaux il veut, il décide de ce qu'il fait, et sans les démarches préalables. Aujourd'hui, on se rend compte que ça ne peut plus être possible. C'est vrai qu'il y a déjà des gens qui sont sur le terrain, peut-être qui sont rattrapés par cette disposition. Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais je crois que c'est tout à fait normal ce que le mini Cocoroco vient de faire. Et même moi, je dis que même ça doit aller au-delà du ministère en charge des enseignements primaires et secondaires. Et le ministère de l'urbanisme également doit s'associer, n'est-ce pas, à la demande de ce ministère pour essayer de mener ce projet commun. Parce que même si le ministre Cocoroco demande les papiers qu'il faut, il ne peut pas donner enfin l'agrément pour le permis de construire, vous voyez. Donc c'est pour ça que je dis, cela urge, n'est-ce pas, l'intervention également du ministère de l'urbanisme, parce que il faut quand même assainir cette maison. Vous l'avez dit à Sautoubois, je crois, quelques mois,
l'année passée,
même l'année dernière, on a eu vent de ces situations où des bâtiments d'école qui s'écroulent sur des élèves. Ailleurs, c'est quand le ciel s'assombrit un peu, on est obligé de libérer tous les élèves parce que l'état du bâtiment n'est vraiment pas propice pour tenir devant une grande pluie. Et tout ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut quand même commencer par quelque part. Je me dis, c'est ce que le ministre Cocoroco essaie de faire. On ne peut que l'encourager. D'accord. On ne peut que l'encourager à aller dans ce sens. Et ça va au-delà de même du ministère de l'éducation, parce que je me dis, il y a plusieurs paramètres aujourd'hui qui rentrent dans la dynamique de protection civile et de la sécurité des populations togolaises. Et là où il y a des gens, là où il y a des vies humaines à protéger, je crois que il n'y a pas à faire de compromission. Il faut y aller avec rigueur et pertinence, et c'est de ça qu'on veut lorsqu'on est gouvernement.
D'accord, merci. Alors, Michel Tchadia, est-ce qu'il n'existe pas d'autres moyens pour régler cette question? Au lieu de demander aux gens de fournir des documents, peut-être demander au ministère de l'urbanisme de faire des descentes, faire des contrôles. Est-ce que ce n'est pas possible?
Mais tu sais, c'est vrai que les établissements privés apportent quelque chose de très grand dans l'éducation et la formation des apprenants au Togo. Mais cela n'est pas une raison pour fermer les yeux sur un certain nombre de choses. En tout cas, moi, je ne peux pas amener mon enfant dans une école privée si je ne sais pas bien comment les murs sont faits, comment les bâtiments sont construits. Moi, je ne peux pas amener mon enfant parce que quand vous sortez de ce studio, vous observez les écoles privées, certaines, vous voyez les bâtiments, vous vous demandez est-ce que l'année peut finir sans que les bâtiments là ne se fondent. Mais il y a les enfants, les apprenants dedans. Mais ce n'est pas de nature à rassurer les parents d'élèves en ce qui concerne la sécurité des enfants. Et à un moment donné, il fallait en tout cas faire quelque chose. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Moi je dis, en réalité, si on demande aux gens d'amener les permis, ceux qui n'en ont pas, on peut procéder à l'inspection des bâtiments, et les bâtiments qui ne tiennent pas, on leur retire les agréments. Ça, c'est tout. Pour protéger les enfants.
D'accord.
On leur retire carrément l'agrément. Parce que on ne peut pas, vous allez voir les lobbies des écoles privées là. Ils vont commencer à s'agiter. Bon, non, parce que ils ont des gens. Vous voyez, c'est un commissaire du gouvernement qui a pris des décisions. Ils peuvent aussi trouver quelqu'un à l'intérieur aussi pour essayer de créer des problèmes. Mais dans tous les cas, je pense que le problème fondamental dans notre pays, c'est que l'État, à un moment donné, cesse de se comporter comme l'État, un État digne de ce nom, à faire respecter, à punir les gens, à faire respecter, pas en violant les droits des gens, mais dans les règles de l'art, encourager ceux qui font bien et punir ceux qui font mal. Donc, quand on a observé pendant des années l'État qui, de temps en temps, est en berne, les gens sont, ouais, je fais un parallèle avec les Piawata là, que nous. Mais
Il y a des gens, ça date depuis, ils prennent, ils nous mettent dans les sachets. Mais quand on veut contrôler, il y a des réticences. Mais où est l'État? Où est l'État? L'État doit sévir. Il y a pas, il y aura même quelqu'un qui peut loger à la prédence s'il commet des choses, on le coince. Quand l'État est comme ça, c'est un État qui est appelé à évoluer. Et très bien. D'accord. Mais quand on pense que certains sont là, ça eux, l'État et les autres profitent, mais ça ne marche pas. Les bâtiments des écoles privées, regardez en ville ici, à Lomé ici, il y a des toits vraiment, on ne sait pas s'il pleut ou qu'est-ce qui va se passer, mais les élèves sont dedans. Vous voyez? Et quand on veut parler pour qui l'a qui, que le propriétaire fondateur a quelqu'un où, il a qui est où, et il faut agir pour le protéger. Quand l'État est l'État est comme ça, il a beau s'efforcer. L'émergence dont on parle, on est loin.
Voilà. D'accord. Merci. Et le Mathieu Jobé, un mot sur le sujet.
Non, je crois que mes prédécesseurs ont tout dit. En réalité, le problème sur le terrain, ça se pose avec acuité. Vous savez, il y a des établissements scolaires, vous voyez déjà, en première, deuxième année, ils sont au rez-de-chaussée. Trois ans, quatre ans après, ils sont au R+1. 5-6 ans après, ils sont R+2. Vous posez des questions de savoir si la fondation est solide. Parce qu'on ne fait que monter le bâtiment sans savoir véritablement si les fouilles ont été bien faites et si la semelle peut prendre ou bien peut supporter 3 niveaux ou 4 niveaux. Parce qu'entre-temps, son concurrent a ouvert un collège. Voilà. Donc, il s'est dit que bon, moi aussi, je peux mettre un collège en haut. L'année suivante, il a ouvert un lycée. Bon, lui aussi, il construit, il met un lycée en haut pour dire que bon, moi aussi, je suis en train de grandir. Donc, en fait, je pense que cette décision du ministère des enseignements primaires et secondaires, elle a bienvenue et à saluer. Parce que vous rappelez, il y a 5 ans, dans le cadre du projet Péri, 5 ou 6 ans, dans le cadre du projet Péri, l'ancien ministre des enseignements primaires et secondaires, Florent Bagan avait perdu son âme, a fait une visite inopinée, une descente inopinée au nord du pays, à Dapaon, dans le cadre du projet Péri 1, où il a touché juste des clôtures. Les clôtures se sont effondrées. Parce que des gens ont coulé des poteaux avec des fers de 8, des barres de fer de 8. Des gens ont fait des claustras, des gens ont fait une toiture, ou ont fait même des dalles avec des fers de 10, mais des choses inimaginables. Donc, je crois quand même qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse bas la terre. Celui qui veut construire un établissement scolaire doit respecter les dimensions techniques. Parce que pour construire aussi une salle de classe, il faut que ça respecte des dimensions et des données techniques. On ne peut pas construire une salle de classe contre le vent. Aujourd'hui, dans les écoles, vous êtes dans les salles de classe où les enfants ont chaud. Mais les enfants ont chaud. Et on met juste une tôle. Voilà, il n'y a pas d'aération. On met juste des claustras et c'est contre le vent. Et les enfants ont chaud. Mais vous rentrez dans la salle, vous vous demandez, mais si vous êtes dans un four. Et donc, on ne peut pas construire des salles de classe contre le vent. Il y a des salles de classe aujourd'hui qui n'ont pas de rampe. De rampe pour personnes handicapées. Vous avez trouvé ça où? Au XXIe siècle. Mais l'inclusion voudrait que les personnes vivant en situation de handicap puissent aussi avoir accès à l'école. Mais vous avez des bâtiments où vous n'avez que les escaliers. Mais ils vont faire comment pour rentrer dans les salles de classe? Et donc, ce qu'on explique là, est-ce que ce n'est pas compréhensible? Pour quelqu'un qui veut construire une salle de classe ou qui a une salle de classe ou un bâtiment scolaire qui veut moderniser. C'est compréhensible. Et donc, faisons bien les choses. Comme Jean l'a dit, des fois, on se pose la question de savoir si nous-mêmes, on aime notre pays. Parce que ce qui est bien, on laisse ça et on veut continuer dans ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais. Et quand on veut nous redresser un peu, on dit que non, que bon, ça, ce n'est pas une bonne décision. Nous évoluons plutôt comme ça. Il faut qu'on poursuive dans la même dynamique. Non.
D'accord.
Non, comme il a dit, notre pays vit une situation, tant qu'on refusera de sortir de cette situation, nous aurons des problèmes au fur et à mesure que nous avancerons dans notre, en tout cas, évolution commune. Parce que quand quelqu'un vient, il voit que pendant des années, il y a des choses qui étaient anormales, mais qu'on pensait, qu'on croyait normales, quelqu'un veut toucher, on dit il vient d'où? C'est la première question. Il veut montrer quoi? Vous voyez? Quand c'est comme ça, un pays fonctionne comme ça, il est né quand? Il est né quand?
On dit qui est derrière lui.
Pas derrière lui forcément, mais on dit tu es né quand? Surtout si tu as la malchance d'être un peu jeune. Que tu veux montrer quoi? Une république ne peut pas évoluer comme ça.
D'accord.
Quand on pense que quelqu'un veut, c'est le bien commun, il doit être recherché par nous tous. ce n'est pas une seule personne.
D'accord. Oui, Magla, pour terminer.
Justement, je crois que le sujet, il est tellement pertinent qu'on, qu'on doit peut-être souffrir de s'attarder un peu là-dessus. Et l'homme a marché un peu sur ma langue. C'est véritablement le sujet qu'il a touché. Voyez-vous, moi je me dis, aujourd'hui on semble se concentrer beaucoup plus sur les écoles privées, mais je dis, il n'y a pas que, il n'y a pas que. Si entre-temps, le regretté ministre Maganaoui, au travers donc de sa démarche pleine d'audace, a pu constater que même dans les établissements publics, il y a des bâtiments qui ne respectent pas les normes, jusqu'à ce qu'on ne passe pratiquement
10 minutes à la télévision.
Voilà. Et même, je me rappelle, on a cassé des bâtiments, on les a...
Ça voudra dire des mises en demeure.
Voilà. Ça voudra dire que la réalité, il n'y a pas que au niveau des écoles primaires. Ça peut arriver, ou du moins, le constat, il est également là, au niveau des établissements publics. Maintenant, ce que je voudrais peut-être, c'est un appel, c'est une interpellation, et ça, c'est au niveau du ministre Kokoroko, et j'ai foi, j'ai pleine confiance à lui, qu'on garde cette dynamique d'audace, de courage, très active, parce que, voyez-vous, quand, par exemple, pour la construction des bâtiments scolaires, on lance des appels d'offres, et c'est des sociétés, n'est-ce pas, qui gagne ces marchés. Et c'est souvent là où on fait souvent, comme on le dit, des anagoplans. Le gars ne respecte pas trop les critères, mais on dit c'est un ami, c'est quelqu'un qui l'a référé, donc il faut faire. Alors que c'est la vie des gens qui est en question. C'est pour cela que je veux lancer cette interpellation-là au ministère en charge des enseignements primaires et secondaires, de garder cette dynamique-là active, à ne pas céder, n'est-ce pas, aux diversions des gens.
Non, c'est partout.
Voilà, c'est partout. Oui. On va sortir de ce sujet.
Oui, parce qu'on parle justement
de tous les domaines.
Voilà.
Ça doit être comme ça. Les médiocres,
tout le monde doit prendre le dessus. D'accord. Mais comme on parle de ce sujet-là, c'est pourquoi je dis, il faut être rigoureux, ferme dans la gestion, n'est-ce pas, de ce genre de projet, pour qu'on n'arrive pas ici à commenter le décès des enfants parce que le bâtiment serait écroulé. Non, ce n'est pas bien. Il faut que chacun joue son rôle.
Si les médiocres ont beaucoup d'amis, ils risquent de triompher. C'est ça, ils risquent de triompher avec les dégâts par la suite.
D'accord.
Donc, il faut éviter que certains, parce qu'ils ont des amis, mais on les protège et ils font un travail qui n'est pas de nature à rassurer tout le monde.
D'accord, merci à vous tous. Nous allons accorder quelques minutes à notre invité, Madame Koko Unida, Justine Eklou, épouse Edor. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Fousseni. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, auditeurs, auditrices de Canal FM.
D'accord.
Merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être passé dans cette émission. Vous êtes responsable de la galerie Coin du Trésor. Nous allons parler art avec vous. Commencez d'abord par nous dire ce que c'est que l'art.
Bon, je suis plutôt responsable de la galerie Coin du Terroir. Galerie Coin du Terroir.
D'accord, galerie Coin du Terroir.
Oui.
D'accord.
Ok, merci pour la question. Quand on parle de l'art, la définition que je pourrais donner à l'art, c'est l'ensemble des connaissances, des règles à observer dans un domaine donné. Tout à l'heure, dans l'intervention de M. Michel, il a utilisé une expression qui m'a plu, faire les choses selon les règles de l'art. Donc, ce qui veut dire que toute activité est considérée comme un ensemble de règles, méthodes à observer. Voilà la définition que je pourrais donner.
D'accord. Alors aujourd'hui, lorsque vous jetez un regard sur le secteur de l'art au Togo, est-ce que vous confirmez que le secteur se porte bien?
Bon, si je veux vraiment comparer par rapport aux années passées, je dirais que ça va un peu. Parce que je ne sais pas si c'est avec l'avènement de Covid, il y a maintenant une prise de conscience. Chacun veut consommer local.
D'accord.
Même voir côté art. Mais le souci, c'est le nerf de la guerre qui manque. Ce qui fait que des gens aiment le beau, la beauté, tout ce qui est beau, mais ils n'ont pas d'argent. C'est ça le souci pour ce domaine.
Est-ce que les objets d'art ne sont pas... le coût de ces objets d'art ne sont pas tellement élevés. Bon, est-ce que c'est à la portée des Togolais?
Bon, ça, c'est des préjugés que nous avons. Souvent, on pense que l'art est cher parce que quand nous regardons sur les médias, on voit des tableaux à coût des milliards. alors que l'art n'est pas cher.
D'accord.
Si vous venez à la galerie Coin du Terroir, vous saurez que avec 500 francs, vous pouvez avoir un objet d'art.
D'accord.
Merci.
Alors, lorsqu'on prend un domaine comme la peinture, est-ce que les Togolais s'intéressent réellement aux tableaux, hein, comme on le voit en Occident?
Pas tellement, mais tel que je viens de le dire, avec l'avènement de Covid, les gens viennent demander à acheter des tableaux à offrir aux amis. Donc, on fait en sorte que les tableaux soient à la bourse de tout le monde.
Voilà. D'accord. Alors, depuis un moment, certains pays occidentaux qui avaient pillé les objets d'art appartenant aux pays africains pendant la période de la colonisation, enfin l'impérialisme, commencent par restituer ces objets d'art à certains pays. Le Bénin en a reçu récemment, le Nigeria également. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, moi, je me demande si c'est réellement ces objets-là qui sont restitués, parce que c'est des objets qui coûtent extrêmement cher. Franchement, je ne sais pas, mais je me pose beaucoup de questions à ce sujet. Je ne sais pas. Mais bon, si quelque chose est fait dans ce domaine, je pense que ça va aider nos pays à avoir leur vraie histoire, parce que l'art permet de connaître une histoire d'une nation.
D'accord. Alors maintenant, pour redynamiser le secteur de l'art au Togo, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire?
Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, j'ai vu que le gouvernement fait un effort dans ce sens. Je crois qu'on doit aider les artisans et artistes. Nous avons beaucoup de talentueux dans ce pays. J'ai eu la chance de sillonner pas mal de pays, au moins une vingaine. Et quand je regarde, je me dis le Togolais, l'artiste togolais ou bien l'artisan togolais est, disons, en avance sur tout ce monde-là. Il suffit de les accompagner et vous verrez. Vous saurez que nous avons des talentueux dans ce pays.
D'accord. Voilà quand vous parlez d'accompagnement, vous pensez à quoi? Leur donner de l'argent? Leur construire un centre, je ne sais pas?
Tout à fait. Les artistes et artisans ont besoin d'avoir un centre. Un centre et une galerie juste à côté, voilà, pour pouvoir vendre ce qu'ils font, pour pouvoir faire, disons, valoir tout ce qu'ils savent faire.
Voilà. D'accord. Alors, l'art est vaste. Hein, il y a la peinture, il y a la sculpture. Bon, vous, dans votre galerie, qu'est-ce qu'on peut retrouver?
Bon, à la galerie Coin du Terroir, nous faisons un peu de tout. Nous travaillons avec les artistes et artisans sur place. Nous leur achetons les matières premières. Donc, tout ce qui concerne la sculpture, les objets sculptés, on le fait. La peinture, on le fait. Nous avons également un volet réservé aux perles authentiques. Les perles authentiques, ça ne se fabrique pas, c'est la nature qui donne. Nous faisons également le tissage de pagne. Nous travaillons avec une équipe qui s'occupe de ça. Nous faisons également la menuiserie, la cordonnerie sur place, la décoration événementielle et même les soins de corps.
D'accord. Ok. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. L'émission se poursuit. Nous allons revenir avec les confrères et l'homme Atis Chogbe. La Nouvelle Tribune aborde ce jeudi une affaire concernant l'UTB. Et le journal titre « Banque casse à l'UTB ». Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Bon, vous savez, l'Union togolaise de banque, c'est l'une des plus vieilles institutions bancaires avec tout le prestige qu'on lui doit. Aujourd'hui, c'est l'État qui est l'actionnaire majoritaire. Entre-temps, l'État a décidé de privatiser cette banque-là en décidant d'une fusion-acquisition dans le cadre d'un processus avec la BTCI qui sera reprise plus tard. Malheureusement, ça n'a pas marché. La Banque togolaise du commerce et d'industrie a été la seule à être privatisée par IB Bank depuis quelques temps. Donc, on en est là parce que, vous savez, l'Union togolaise de banque, c'est aussi beaucoup de malversations financières. Vous vous rappelez, il y a eu une saison de malversations financières dans cette banque. Et donc, le papier de ce matin, c'est vrai que beaucoup ont été surpris d'apprendre la nouvelle. Nous avons été tout aussi surpris que les autres parce que justement, dans la nuit du 30, ou disons plutôt entre le 30 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, il y a eu une intrusion dans le système monétique ou le système d'information de cette banque qui a permis à des individus sans foi ni loi de dérober une importante somme d'argent sur les cartes bancaires et avec des manipulations de chiffres sur les comptes. Donc ça a créé un grand bazar, un véritable bazar au niveau de cette banque-là. Malheureusement, personne n'a voulu répondre à nos questions dans le cadre de cette affaire. Aucun cadre de la banque, aucun employé n'a voulu répondre à nos questions lors de nos recoupements. Mais les faits sont là. L'UTB a perdu d'importantes sommes d'argent à travers une intrusion dans le système monétique. Il s'agit plutôt de hacking, comme on sait le dire. Et c'est quand même malheureux. Et c'est l'occasion d'appeler toutes les banques à renforcer la vigilance autour de leur système d'information et de sécurité. Parce que nous, qui sommes les clients, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cette sécurité-là autour de nos comptes, de nos données biométriques. Parce que les cartes bancaires que nous utilisons aujourd'hui ne sont plus aussi sûres. Il faut que chaque mois, chaque période, à chaque saison et régulièrement, que toutes les banques et toutes les institutions, pas seulement les banques, puissent investir dans le renforcement des données biométriques, dans la sécurisation des données de leurs clients. C'est très important.
D'accord. Merci pour ces éclaircissements. Nous allons passer à un autre sujet. Il y a quelques jours, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damhan, rappelait à l'ordre les vendeurs de carburant frelaté dans la partie septentrionale du pays. Pour cause, le ministre pense que certains parmi eux aident les terroristes à ravitailler leur engin contre de fortes sommes. Une pratique qui rend encore difficile la lutte contre le terrorisme sur les territoires nationaux, estime le ministre très en colère. Alors, Canal D nous plonge au cœur de ce phénomène. Le journal titre « Terrorisme au Nord Togo, trafic de carburant frelaté au cœur de la contrebande historique du phénomène ». Axe Pandiari à Liboé, le danger, quelle piste de solution? Alors Jean-Legrand Pollery, ce phénomène dénoncé par le ministre Yark Damhan, existe-t-il réellement?
Oui, le phénomène existe. Il faut dire que c'est à la sortie du ministre que nous avons essayé de fuiner sur la question. Et de concert avec nos confrères de labali.com, notamment Edouard Samboué, que je salue au passage, nous avons vraiment été au fond de la chose pour comprendre au fait. Aujourd'hui, on parle de carburant frelaté dans les savanes. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que le phénomène a commencé? Quelles sont les poches par lesquelles le phénomène s'est poursuivi? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour solutionner le problème? Il faut dire historiquement que depuis plusieurs années, la préfecture de Kwendial n'a pas de station d'essence en question. La première station d'essence, quand vous quittez Taparon pour Mandouri, est à 60 km de Mandouri. C'est au niveau de Borgo. Ce qui veut dire que quand vous êtes à Mandouri, vous devez parcourir au moins 60 km avant d'avoir du carburant. Et il n'y a pas eu de station d'essence dans la zone. Du fait que la zone soit frontalière au Bénin et notamment un peu le Burkina Faso, la zone a été souvent alimentée par le carburant frelaté qui traversait les poches, les frontières poreuses. Et en ce temps où il n'y avait pas de groupes armés, chacun tirait son compte. Il faut dire que chacun a véritablement tiré son compte du jeu. Les gens en ont profité. Mais il se fait que depuis que les groupes armés ont commencé dans la zone, le Bénin a notamment démissionné. Les militaires béninois ont démissionné au niveau du Pendjari. Quand on parle de Pendjari, vous savez, il y a des massifs montagneux qui quittent le Burkina, qui viennent dans le Bénin. C'est ce qu'on appelle Pendjari. Et ça vient dans le Togo au niveau de Pendjal. Donc cette zone, c'est des forêts, des marécages, et c'est dans ces forêts-là qu'il y a des sentiers par lesquels les gens font le trafic de contrebande et tout ce que vous avez. Et quand vous allez au nord du pays, notamment au niveau de la Corne Est, il y a un village qui s'appelle Koualou, qui a longtemps été sujet à controverse entre le Burkina Faso et le Bénin. C'est l'ONU même s'en est mêlée, et depuis un temps, c'est le Bénin qui gère de façon économique la zone. Mais administrativement, la zone est gérée par le Burkina Faso et le Bénin. Et cette zone est réputée plaque tournante de carburant. Tous les trafics de tout genre, vous avez le sodabi, les cigarettes, le carburant, tout passe par là. Et c'est une zone un peu cosmopolite où vous avez beaucoup de Ibo, les Nigérians. Et c'est une zone où, ma foi, la réglementation, ça ne passe pas. Et c'est fondamentalement par là que le carburant passe beaucoup. Depuis 4 mois que les forces de défense et de sécurité vraiment ont décidé de protéger nos territoires, la frontière Bénin avec le Burkina est sécurisée. Ce qui fait que le carburant frelaté ne
peut plus rentrer par le Togo. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est interdit. Mmh. Et quand on vous a, quand vous êtes remarqué de loin, selon les informations, on vous abat. Parce que, vous savez, quand on parle de groupes armés, c'est des gens qui n'ont pas du courant électrique. Il faut alimenter le matériel, il faut mettre du carburant dans les motos, et tout, c'est le carburant. Or, ces gens-là ne peuvent pas aujourd'hui aller dans une station d'essence pour acheter du carburant. Mmh. Et c'est par ces filons-là que les gens achètent le carburant pour faire prospérer ces groupes. Il faut dire qu'en temps même au Burkina, le bidon jaune de 25 litres a été vendu à 1 million de francs parce que ces gens avaient besoin de carburant. C'est aujourd'hui dire que pour leurs activités, ils ont fondamentalement besoin de carburant. Et beaucoup de Togolais, de jeunes Togolais, se mêlaient à ce trafic-là. Parce que je vous ai tantôt dit qu'il n'y avait pas de carburant dans la zone. Mmh. Et depuis l'interdiction aujourd'hui, le ministre est dans une logique, je vais dire, d'anticipation. Parce qu'il est difficile aujourd'hui que vous importiez du carburant frelaté à l'intérieur du Togo. Mmh. Mais c'est plutôt des Togolais qui vont à l'intérieur, au niveau du Bénin, et vendent ce carburant-là aux groupes armés. Le ministère est en train aujourd'hui d'alerter les gens parce que, au nord, il faut dire qu'aujourd'hui, qu'il y a la pression de la famine qui est sur beaucoup de populations. Depuis quelques mois, les gens n'ont pas été au champ, n'ont pas cultivé. Mmh. Les gens ont fui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui, je vais dire, une autosuffisance alimentaire dans la région. D'accord. Les gens ne savent pas quoi faire. Mmh. Et beaucoup sont tentés aujourd'hui d'aller au niveau du Bénin, vendre ce carburant et revenir. C'est en ce sens que moi, je dis qu'aujourd'hui, qu'il faut que le gouvernement, vraiment, à travers le programme d'urgence, cible véritablement ces populations. On nous a dit que 50 000 ans ont été injectés dans le projet depuis bientôt un an. Il faut qu'on résolve ce problème-là. Parce que tant que les jeunes de la localité ne trouvent pas à faire, c'est fort probable que beaucoup aillent ravitailler. Parce que quand on dit, bien sûr, ils sont conscients qu'il faut protéger le territoire, mais quand la faim est dans, je vous dis, ma foi, à un moment donné, le cerveau ne réfléchit plus.
Effectivement.
C'est un article que nous avons fait. Quand vous allez en profondeur, vous verrez vraiment tout ce qui est détaillé. Je n'ai pas pu vider l'article.
D'accord.
Mais achetez le journal, vous aurez tous les détails sur c'est la contrebande.
Dans Canal D de ce jeudi. Alors, Mangual Teko, voilà une pratique qui vient compliquer la lutte contre le terrorisme au Togo, au Nord Togo.
Oui, je crois que nos confrères de Canal D ont bien fait de faire le, non seulement donner l'information, mais de procéder à un diagnostic que j'estime holistique de la situation, parce que nous sommes en face d'un fait, certes regrettable, mais en même temps, ce n'est pas un fait anodin comme cela. Il y a des situations en amont qui ont concouru justement à ce qu'on ait ces situations, notamment le chômage, notamment la famine, et ce qui fait que aujourd'hui beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, qui sont dans cette région du pays sont vulnérables. Ils sont vulnérables et quand on sait le mode opératoire de ces gens-là, c'est de s'attaquer beaucoup plus à ceux qui sont vulnérables, à ceux-là qui peuvent véritablement être à leur sort plus facilement. Et donc, c'est vrai, c'est une bonne chose que le ministre Yark puisse lancer l'alerte. Mais au même moment, c'est une interpellation pour le gouvernement d'agir beaucoup plus encore. C'est vrai que depuis un moment, on semble concentrer beaucoup de projets de développement sur la région des savanes. Mais est-il que, vu l'urgence de l'heure, je crois qu'on doit encore accélérer les pas, redoubler d'ardeur, parce que tant que la pauvreté régnera à mettre dans la région des savanes, ça rendra beaucoup plus vulnérable encore la jeunesse. Et quand on est vulnérable, c'est que malheureusement, on s'ouvre à tout, on s'offre à tout. Et c'est ce que nous constatons. Si Jean le disait tantôt, que cette zone-là, c'est beaucoup plus propice à toutes sortes de trafics, notamment le surabi même, toutes sortes de drogues et tout, c'est qu'il y a véritablement beaucoup de choses à faire. Mais je vous dis, selon les informations, il n'y a pas que, c'est-à-dire que le carburant frelaté, ça ne sert pas que à ravitailler, n'est-ce pas, les groupes terroristes, mais selon les informations, ça contribue également à la fabrication de ces engins explosifs-là. Les mines qu'ils posent, c'est, tout semble dire que ces carburants frelatés participent également à la fabrication. Donc, C'est une urgence aujourd'hui. Il faudrait qu'on prenne conscience de la situation et essayer de protéger au mieux notre pays.
D'accord. Pendant que nous parlons du terrorisme ici, se tient en ce moment à Lomé une conférence internationale sur le phénomène. Cette rencontre de deux jours est organisée par l'Assemblée nationale togolaise en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, l'Union parlementaire africaine, le comité interparlementaire du G5 Sahel et le conseil de la Choura de l'État du Qatar. Ouara les vainqueurs l'évoque ce jeudi et titre « Lutte contre le terrorisme ». Une conférence internationale démarre aujourd'hui. La Nouvelle Tribune en fait également cas avec le titre suivant « Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ». Une conférence parlementaire de haut niveau s'ouvre à Lomé. Écho du pays titre, lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, une conférence parlementaire s'ouvre ce jour à Lomé. Et puis, lutte contre le terrorisme, titre chronique de la semaine, une rencontre à Lomé pour la recherche de solutions concrètes et durables. Alors, Michel Tchadjar, la question du terrorisme continue de retenir toutes les attentions et cette énième conférence en est la preuve.
Il n'y en aura jamais une conférence de plus. Quand il s'agit de, disons, une conférence de trop, s'il s'agit de la lutte contre le terrorisme, je pense que les États, aujourd'hui, sont conscients qu'il faut aller très vite, parce que les groupes criminels sont dans une logique. Que si les États ne multiplient pas d'efforts, ce sera très difficile dans les mois et dans les années à venir. Donc, après les gouvernants, il faut aussi que les parlementaires aussi apportent leur contribution. C'est l'Assemblée nationale togolaise qui organise cette conférence internationale. À laquelle vont participer beaucoup de parlementaires, les États du G5 Sahel, le Qatar. Et notons que cette rencontre fait suite à une autre qui s'est tenue donc au Qatar l'année dernière. Donc c'est dans une logique de rechercher dans les, en tout cas, de rechercher les voies et moyens pour combattre efficacement le terrorisme. Cette rencontre qui s'est ouverte peut-être déjà dans notre capitale va permettre aussi d'associer les associations de la les jeunes et les OSC, les associations de la société civile. Donc c'est, je pense que c'est, par rapport à l'extrémisme violent, c'est très important de pouvoir échanger les expériences et tout, et ça peut peut-être donner, ça peut booster quelque chose. Quand on sait que, selon la note d'information, cette rencontre va déboucher sur la mise en place donc d'un organe de suivi qui est chargé de faire des propositions par la suite pour voir dans quelle mesure aider les populations ou bien aider les États à trouver les solutions donc idoines dans la lutte contre le terrorisme. Je pense que c'est une rencontre qui n'est pas de trop.
D'accord.
Parce que par rapport au terrorisme, toute initiative dans ce sens est tellement louable.
D'accord. Elon Matisseoglé, la lutte contre le terrorisme nécessite beaucoup de moyens, notamment des moyens militaires conséquents et sophistiqués, et tous les acteurs le savent. Pourquoi ne pas aller directement au concret?
ça ne se passe pas comme ça. Même les terroristes, ils ont des stratégies. Ils ne viennent pas comme ça sur un territoire, commençant par frapper les gens et tout ça. Ils définissent d'abord les choses, ils regardent, ils étudient les zones. Ils voient que, bon, telle zone, on peut rafler de 20 à 30 femmes, comme on l'a fait la dernière fois au Burkina. Ce qui est malheureux, il faut condamner à l'unanimité cela. Et il faut pas juste se lever pour dire on va acheter de l'armement, on va acheter des équipements militaires et commencer à faire une bataille asymétrique. Parce qu'il s'agit d'une bataille asymétrique. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne maîtrisez pas.
C'est-à-dire les terroristes n'ont pas élu domicile quelque part. Vous dites, si on les attaque là, ils seront pris en étau. Mais c'est des gens qui circulent. C'est-à-dire ils ont des stratégies, ils savent comment ils se déplacent, ils savent comment ils peuvent attaquer. Et donc, nous, on ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire on va acheter 1000 drones qui vont survoler tout l'espace togolais à la recherche des terroristes. Vous ne les trouverez nulle part. C'est des gens qui quand vous dormez ou bien quand vous êtes dans une mauvaise posture, en même temps, ils vous attaquent et puis ils finissent avec vous.
Parfois, ils se fondent parmi la masse.
Donc, il faut ce genre d'initiative comme la conférence qui se déroule actuellement à Lomé et pour pouvoir poser les bases d'une réflexion parce qu'il faut intéresser aussi la jeunesse. Parce que les jeunes sont aujourd'hui... la jeunesse est aujourd'hui le vivier, le terreau où on vient recruter beaucoup de personnes qui vont nourrir ces groupes terroristes-là. Donc, il faut associer les jeunes, voir dans quelle mesure les jeunes peuvent contribuer durablement à résoudre le problème. Parce que aujourd'hui, l'Afrique est essentiellement jeune. La population en Afrique est essentiellement jeune. Ce n'est pas des personnes âgées, ce n'est pas des bébés, mais c'est la jeunesse qui constitue la force de l'Afrique. Si la jeunesse africaine se lève et qu'aujourd'hui, on peut avoir de cette jeunesse africaine des propositions concrètes avec des mesures d'accompagnement concrètes, vous allez voir qu'on va commencer à changer de mentalité. Parce que tout se joue dans la tête d'abord. Le terrorisme se joue d'abord dans la tête. C'est la peur. C'est la peur qui alimente le terrorisme. Quand vous êtes sur un territoire donné, et les terroristes jouent beaucoup plus sur la peur. Si vous avez, si les gens commençaient par fuir, etc., vous avez vu, ils ont élu domicile. Ils savent que si on vient dans tel village, il n'y a personne. Voilà. Et puis, si 2-3 personnes viennent, vous allez voir 20-25 personnes vont arriver. Mais si on tient tête, si un terroriste vient et qu'on lui barre la route, le second vient, lui barre la route, les gens sont stoïques, ils sont courageux, ils tiennent tête à ça et ils ripostent de façon efficace, vous allez voir que les gens ne viendront plus sur ce territoire, ils vont commencer à sillonner d'autres territoires.
D'accord. Jean Legrand.
Oui, si tu permets, ma conférence, bon, il faut que je dise quelques mots juste. Vous savez, cette conférence, moi, je ne suis pas contre. C'est fondamentalement bien, toujours réfléchir, parce que la réflexion, c'est de la réflexion qu'on tire des actions, c'est-à-dire on tire des résolutions et on pose des actions. Mais moi, je me pose la question de savoir, fondamentalement, les actions concertées, ça traîne. On en fait, on met des mécanismes en place, mais depuis un temps, c'est-à-dire l'action sur le terrain, on peine à voir ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé au niveau de Mali. On a parlé de G5 Sahel, qu'on va mobiliser des milliards et tout et tout. Même les sous qu'il faut pour financer l'armement là-bas. On n'a pas pu avoir ce qu'il faut. Moi, je vais vous choquer, mais je ne pense pas que ce phénomène finira de sitôt. On est parti pour de bonnes années parce que il y a tellement d'intérêt dans cette histoire que les mêmes parfois qui sont là, qui disent qu'ils luttent avec vous, sont les mêmes qui entretiennent ceux qui vous attaquent. Je vous dis que quand vous allez voir les intelligences extérieures à ce phénomène, ma foi, c'est compliqué. Quand vous avez des États dont les dirigeants abandonnent certaines parties des populations, des gens qui vivent dans la frustration et tout, vous avez beau vous réunir. Tant que vous ne touchez pas du concret ces populations, le terrorisme va continuer. Vous avez beau vous réunir et tout faire, ça ne va pas marcher. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les États vraiment réfléchissent. Si de façon endogène, on va lutter contre la pauvreté, il y a aussi au niveau de certains zones où les armées doivent se réunir. Regardez au niveau du Nord, le Bénin a démissionné, le Burkina a démissionné. Les Togolais sont les seuls au niveau de la frontière. Ce qui fait qu'en face, il y a toujours ces groupes armés qui attaquent. Jusqu'à quand vous allez défendre. D'accord. Tant que les armées ne vont pas trouver le mécanisme qu'il faut pour noyauter ces groupes armés, je crois qu'on va se réunir en vain, on aboutira.
D'accord, Magloire nous amène à la pause.
Oui, justement, peut-être...
Michel voulait... non, on pourra revenir. Vas-y, Magloire.
De gens qui paraissent un peu sceptiques sur cette lutte-là, moi j'ai dit oui, moi aussi je suis d'accord pour qu'on puisse se réunir, réfléchir sur comment y procéder, mais... En réalité, il faut savoir être pragmatique. Voyez-vous, si on enchaîne des conférences sur conférences, mais après, il n'y a pas d'action concrète, je crois que c'est ça même qui tuera la lutte. Vous vous rappelez qu'en novembre, même c'est les chefs d'État même qui se sont réunis avec des experts à Accra. On a appelé ça l'initiative d'Accra. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? L'une des recommandations, c'est que dans les 4 semaines qui suivent, c'est-à-dire après... Un mois après l'initiative d'Accra, on mettra en place une force multinationale, enfin une force
multidimensionnelle.
Multidimensionnelle, une force militaire.
Militaire, oui.
Que les États membres de l'initiative d'Accra vont se réunir et sortir un mois après cette force-là. Mais nous sommes en janvier, rien. Ça voudra dire que le sommet de Lomé aussi va passer. Après, on va atterrir à Abidjan, peut-être à Ouaga. Et jusqu'à quand? C'est pour ça, moi, je dis, je suis d'accord, je suis pour les conférences, mais de grâce, essayons d'être pragmatiques.
D'accord, Michel, bonsoir.
Bon, les conférences, bon, ceux qui se réunissent le plus souvent dans les conférences, c'est pour cotiser, à mon avis, des idées. Mais ceux qui agissent sont là. Ceux qui
c'est
les chefs d'État.
Voilà,
sont là,
c'est pour ça,
avec les armées.
Voilà.
Et moi, je dis que, je me dis, et j'ai l'impression, hein, peut-être c'est l'impression que j'ai, que les groupes armés sont en avance même sur les États. Les groupes armés, généralement, c'est après leur opération qu'on relève leur mode opératoire. Et c'est incroyable. Puisque le plus souvent, c'est eux qui attaquent. Le plus souvent.
Puis on ne les connaît pas.
Oui. Voilà, c'est eux qui attaquent.
Difficile.
Et c'est quand ils se replient,
ils se trouvent.
Qu'on relève maintenant leur mode opératoire. Et on se rend compte qu'ils sont tellement en avance. Et mais alors, si c'est comme ça, mais il faut que les États aussi se concertent régulièrement. Pour réfléchir. Et être aussi, peut-être, s'ils ne peuvent pas être au même niveau que les groupes armés, qui sont en avance aussi sur eux, parce que c'est, ma foi, tu sais, vous savez, les groupes terroristes, ils ne recrutent pas les médiocres, ils recrutent, c'est les génies, ils recrutent. Et quand vous prenez les groupes terroristes comme les Al-Qaïda, on ne recrute pas n'importe qui. Donc, il faut que les États, quand même, multiplient des rencontres, des réflexions, pour voir comment aussi aller très vite.
D'accord. Enfin,
c'est de ça qu'il est question. Maintenant, si ceux qui se réunissent, si les États n'arrivent pas à accompagner, on le dira aussi.
D'accord. Merci à vous tous. Nous marquons une pause commerciale et on revient. 93.5. Retour pour terminer en toute beauté cette émission. Le moment est arrivé d'ouvrir la ligne pour les auditeurs. Pas encore d'auditeurs, nous rappelons quand même les lignes 22 21 33 74 91 36 63 75 98 87 78 37. Pas encore d'auditeurs. Alors, si vous avez des réactions, d'autres réactions, voilà, il y a déjà un. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Salut Plateau.
C'est monsieur?
C'est monsieur Donné.
Monsieur Donné, on vous écoute.
Je voulais réagir par rapport sur le sujet du terrorisme là. Sur le terrorisme là, je voulais passer par votre canal pour interpeller les Togolais. Ils n'ont qu'à faire attention. Parce que d'accepter tout le temps de faire les sommets au Togo là, ça nous fait trop de problèmes quoi. Parce que le sujet du terrorisme compliqué qui n'est pas son nom.
Problème dans quel sens?
Les terroristes, ils se connaissent. Ils connaissent là où ils vont aller. C'est pas le Togo là, faire attention. Et bon, je veux aussi vous interpeller, non, vous exhorter plutôt de parler aussi sur le sujet des microfinances au Togo. Donc, oui, les microfinances au Togo, là, ça devient un cancer qui tue les Togolais. Donc, ça, c'est une complexité qui n'est pas souvent. Parler un peu aussi sur les microfinances au Togo, pour les Togolais, les Togolais, ce qui se passe au Togo.
D'accord.
Merci, bonne émission.
Merci à vous, monsieur Donné. Allô, oui, bonjour. C'est monsieur? On vous écoute.
Oui. Je voulais intervenir à votre vidéo.
La ligne est mauvaise. La ligne est défectueuse. Rappelez-nous. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, monsieur, bonjour.
C'est monsieur?
C'est Sylvain.
Monsieur Sylvain, on vous écoute.
Oui. Pour ce qui concerne la question que le journal a posée, après on a rien à mettre sous la dent. C'est le statu quo. On a l'impression que les autorités prennent des mesures et font des communiqués, après des conseils des ministres, et point barre. Il n'y a pas de suivi. Et puis l'autre conseil des ministres, on ne fait pas une rétrospection pour voir ce qu'on a pris. Est-ce que ça a marché? On prend un autre. C'est comme si on va à la va-vite, mais ça ne donne rien. Cette histoire de caution, normalement, on devait nous dire quelque chose après. Le bilan, on devait faire le bilan avant de prendre encore un autre communiqué. Et pour ces histoires de, effectivement, moi je le dis toujours, on a soif d'alternance, mais pas avec les armes sur les épaules. Ce qui alimente ces djihadistes, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Donc le ministre a fait une bonne sortie. C'est maintenant, il faut des mesures pour accompagner ces gens-là qui alimentent ces djihadistes pour pouvoir manger à leur faim. Monsieur Gou disait, in business, no pity in business. C'est leur business. Pour parer à ce problème, il faut faire nourrir ces messieurs. Bon, merci.
D'accord, merci monsieur Sylvain. Allô? Pas encore d'éditeur. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 76, 98, 87, 78, 37. Appelez-nous. Toujours pas de réaction. Toujours pas de réaction. Donc nous allons continuer en attendant. Oui. Ah, il y a déjà quelqu'un en ligne. Allô? Il est reparti. D'accord. En attendant que quelqu'un se signale, nous allons aborder un sujet. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Komi.
Monsieur Komi, on vous écoute.
Par rapport à la question des djihadistes, moi je vais poser la problématique de la formation de nos armées. Pourquoi je le dis? Nos armées, nos militaires sont censés contrôler notre territoire, l'intégralité du territoire. Même dans nos maisons respectives, un voleur ne peut pas prendre le contrôle de nos maisons et de manière récurrente venir repartir comme bon lui semble. C'est pour ça que je pose la problématique de la formation de nos militaires. Et en conséquence, est-ce que nous, Africains, nous sommes toujours obligés de respecter à la lettre les ordonnances des colonies qui nous dirigent? C'est-à-dire, face aux djihadistes, c'est toujours comme ça que vous devez agir. Et que, lorsque nous prenons le cas Mali, lorsque les gens reviennent, vous discutez avec eux, on leur interdit de tirer sur les gens. C'est-à-dire, vous remarquez un djihadiste, au lieu de tirer, on refuse, on veut attraper la personne. Et que la personne, par moment, fuit. Ou bien les dispositifs que les gens là ont vous dépassent. Ça voudrait dire que dès la formation jusqu'à l'exécution, il y a un problème qui se pose. Je ne sais pas si l'armée même a déjà fait une autre réception pour voir à quel niveau ça coche.
Pour finir, je crois que l'ONU a un mandat d'observation, quelque chose comme ça. Hein. Ils n'ont pas le droit de tirer.
Et ça rime avec l'escroquerie. C'est comme si on connaît le mal, mais on ne veut pas finir avec le mal. On continue, on gère en attendant. Parce que peut-être on a un autre profit derrière. C'est comme ça, moi, je vois la chose.
D'accord, merci.
Pour finir, vous permettez,
oui, allez-y.
Je veux encore revenir sur le problème du général Yark. Si on pose le problème comme si ces jeunes-là étaient contents d'aller vendre du carburant à ces djihadistes, c'est faire fausse analyse. C'est parce que lorsque nous prenons les dires du nouveau patron du Burkina, c'est parce que par moment nous sommes ici à Lomé et nous avons oublié les autres qui sont à l'intérieur. Si on s'approche de ces gens-là, et on se vient véritablement à leurs besoins, ils auront l'éveil de conscience et la présence d'esprit de finir avec ces gens-là.
D'accord. Merci, monsieur Komi. Allô? Allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur?
C'est monsieur Yao, d'accord.
Monsieur Yao, on vous écoute.
Ok. Moi, je voudrais encourager le ministre des Enseignements primaires et secondaires. Par rapport à tous les établissements scolaires, je suis un peu peiné qu'il y a des fondateurs d'école qui essaient d'éviter un bâtiment public parce que ce bâtiment reçoit les élèves et qu'on ne pense pas faire ces choses dans les règles de l'art et que ces choses aient des fiches techniques, c'est-à-dire le permis de construire. Donc, j'envoie le ministre à être intransigeant sur ce point. Ceux qui ne respectent pas ça, que les écoles soient fermées, hein, parce D'accord. que c'est la vie de nos enfants qui sont mis en danger.
D'accord. Merci, monsieur Yao. À très bientôt. Allô? Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
C'est Nyamago.
Ok. On vous écoute.
Oui, nous tous, nous allons dans le même sens pour saluer les efforts du ministre de l'Enseignement. Monsieur, ce n'est pas un homme de parole, c'est un homme d'action. Et il a montré, en commençant par les écoles publiques, vous avez vu, je parle les années passées, à Clichy, les enfants fréquentent dans des murs défectueux, ça tombe sur les enfants. Beaucoup d'écoles publiques, dont il a commencé par fermer ses propres écoles, comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et, sauf que au niveau du privé, bon, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas encore de ces cas de victimes, mais il va de bon ton qu'on ait des permis de construire. Le permis, c'est un papier. Est-ce que le mur, vraiment, ce que nous demandons ici, c'est pas par argent. Tu vas-tu pour l'argent, tu as le permis, même si ce n'est pas bien. Est-ce que c'est sûr que c'est le permis qui rassure qui rassure que le mur est solide? Bon, point d'interrogation. Vous allez voir même à Gangré là-bas, un joyau de catholique, la TVT allait là-bas, on dit que pour faire des efforts, au Togo, en causant de belles écoles, mais c'est une école privée. Et par rapport au djihadiste, nous saluons aussi le ministre. Mais sauf que, depuis là, je m'interroge. Comment ils ont su que c'est aux djihadistes qu'on a vendu les carburants? Ça veut dire que les djihadistes opèrent à visage découvert. Avant la vente de boudets aux djihadistes, ils prenaient leur carburant où? Ça veut dire que nos stations d'essence aussi vendent de carburant aux djihadistes. Moi, ce communiqué-là, vraiment, je me pose beaucoup de questions, je ne comprends pas. Ou bien, on voit les djihadistes, on fait semblant de ne pas les voir. Sinon, ou bien c'est le jeune-là qui a confirmé que c'est un djihadiste qui a vendu le carburant.
D'accord. Merci à vous. Allô?
Allô? Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Johannes.
Monsieur Johannes, on vous écoute. Oui.
Par rapport, toujours aussi au problème du terrorisme, je ne pense pas, en fait, ce n'est pas une question d'être en avance par rapport aux armées. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que les djihadistes sont en avance avec des matériels qui sont forcément en avance. Quelqu'un qui veut vous attaquer, vous attaquer plutôt, par surprise, en principe, est toujours en avance par rapport à vous. Parce que c'est un imprévu. Mettez-vous, un soldat qui a une arme, quelqu'un qui veut l'attaquer avec un simple couteau, est toujours en avance par rapport à ce soldat. Parce que celui qui veut attaquer, qui sait ce qu'il veut. Le soldat ne sait pas que quelqu'un veut l'attaquer. Quand on prend les attentats qui ont eu en France, par exemple, il n'y a que deux personnes qui ont bouleversé toute la France. Je ne pense pas que les armes que ces personnes ont utilisées étaient plus sophistiquées que les armes que l'armée toute l'armée française a. C'est juste une affaire de que ce soit les terroristes ou dans la vie en général, quelqu'un qui veut vous est par principe en avance par rapport à vous. Maintenant, le second point.
Rapidement.
Que moi, j'ai l'impression que dans ce combat qu'on veut faire contre les carburants qu'on dit, j'ai l'impression qu'on veut forcer un lien entre ça et le terrorisme. C'est pourquoi le juteur qui vient de me précéder demande est-ce qu'on connaît les terroristes de Vigy pour savoir que on leur vend du carburant. Si on arrive à savoir que on vend du carburant aux terroristes, comment on n'arrive pas à savoir que nos propres forces de l'ordre achètent ce carburant-là? Donc j'ai l'impression que dans ce combat contre ce carburant, on veut on veut donner, se donner raison en disant que le carburant alimente les terroristes. Non, c'est dangereux ce lien-là.
D'accord. Merci à vous. C'est le dernier auditeur que nous venons de recevoir. Nous revenons ici en studio.
Les auditeurs ont fait de belles réflexions. Mais vous savez, nous, on n'est pas au renseignement militaire ou on n'est pas des spécialistes de l'armée. Et on peut analyser. Mais les informations dont l'État dispose, ce n'est pas tout que l'État peut mettre à notre disposition. Donc, si l'État ou le renseignement militaire où le ministre de la Sécurité dit que les terroristes s'approvisionnent via du carburant, ça voudra dire qu'il a les éléments de ce qu'il est en train de dire. Et donc, c'est un spécialiste qui est en train de parler, plus un ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Donc, on ne peut pas s'amuser avec ses propos. C'est à nous maintenant, comme Jean l'a bien décrit tout à l'heure, en décrivant le mode opératoire de ces terroristes, parce que moi, j'apprends que le bidon de 25 litres de carburant se vend 1 million au Burkina, par exemple. Ça, c'est une mine d'or pour les gens qui font ce commerce, vous comprenez? Et vous comprenez en même temps comment ça se passe, parce qu'aucun terroriste ne va s'approvisionner. Personne ne s'est jamais posé la question de savoir comment ils s'approvisionnent en carburant. C'est pas. Quand on vous dit au Nord, par exemple, que des gens se sont organisés avec des motos pour attaquer un village de la région des Savades, c'est pas des motos qui sont allées faire la queue dans une station de carburant pour aller payer du carburant. Ils ont leur source d'approvisionnement aussi. Et donc, il faut qu'on analyse tout ça froidement pour qu'on puisse savoir exactement comment nous aussi, nous pouvons nous organiser pour pouvoir lutter contre ce mal.
D'accord. Alors, s'il n'y a plus d'autres réactions, nous... Non, oui,
juste...
Oui, rapidement.
Un auditeur demandait comment il s'approvisionne et tout, qu'il a acheté le journal. Beaucoup a été décrit dans le journal.
Dans le journal.
Et un autre se demandait, il disait que pour attaquer, ce n'est pas une question d'armement, de personnes ont secoué la France. Non, qu'ils ne confondent pas une attaque sporadique de deux individus et une attaque de groupes armés. Quand vous prenez Boko Haram, pourquoi est-ce que Boko Haram n'a pas pu être délogé par l'armée nigériane? C'est parce qu'ils ont un armement immense et très lourd. Et on se demande comment ils ont pu l'avoir. Donc, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'intelligence extérieure qui compose avec ces groupes armés. Et donc, la question de l'armement intervient fondamentalement dans la lutte contre les groupes terroristes. Et donc, que l'auditeur aussi essaie de se renseigner. Parce que faut pas qu'on appelle et puis qu'on essaie d'induire les gens en erreur.
D'accord. D'accord. Merci à vous. Nous sommes à l'étape des cartons. Mais avant de vous donner la parole, nous allons revenir à madame. Nous avons été heureux de vous accueillir sur ce plateau. Et je rappelle, votre nom, c'est madame Coco Unida Justine Eclou, épouse Edor. Vous êtes la responsable de la galerie Coin du Terroir. Merci d'être passée dans cette émission.
Merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour, inviter la population togolaise à passer à la galerie et à voir ce que nous faisons. L'art, c'est un langage. L'art, c'est une expression qui tend vers la satisfaction.
Merci. D'accord. Merci à vous. Alors, l'étape des cartons, rapidement, Mangoula Teko.
Je n'ai pas de cartons, mais peut-être aussi, parce que moi, j'ai eu la chance de faire un tour chez madame à la galerie. Peut-être qu'elle le découvre aussi comme ça. Mais je peux affirmer qu'il y a du beau là-bas. Que les gens gagneront véritablement à faire un tour là-bas.
D'accord.
Et maintenant, je n'ai pas de carton, mais c'est pour rassurer juste ceux qui s'inquiètent par rapport à Flambeau qui nous appelle. C'est pour les rassurer que la rédaction du journal Flambeau des démocrates boucle cette semaine. C'est quatre semaines de congé annuel. D'accord. Et que nous serons de retour la semaine prochaine.
D'accord. Inch'Allah. Alors, Jean Le Grand Polorini.
Oui, je voulais donner un carton jaune, mais je crois qu'il va virer au rouge. Parce que ça commence par à faire un peu trop. C'est un carton rouge au centre de formalité des entreprises. Je donne le carton rouge parce que, vous savez, avant la COVID-19, le dépôt des dossiers pour la création d'entreprise se faisait de façon physique. Mais avec la COVID, on a digitalisé le service. Quand vous déposez avant le dossier le matin, le soir, vous avez votre carte. Mais depuis que la digitalisation est entrée en jeu, ma foi, nous n'avons que des plaintes des usagers de ce service parce que on a l'impression que le système en question a un souci. Parfois, vous envoyez vos documents, on vous envoie un mail, vous dit qu'on ne retrouve pas les documents d'envoyer. Vous venez le soir, vous n'arrivez pas à récupérer votre carte. Parfois, des gens font une semaine, deux semaines avant de récupérer la carte physique pour laquelle on a dit qu'on peut l'avoir en 24 heures. Je n'accuse pas le service, mais je ne sais pas quel est le problème avec le système qui fait que aujourd'hui,
la digitalisation fait plus de mal à ce service. Je crois que nous allons revenir sur le sujet la semaine prochaine.
Certainement, certainement. Alors, Elom Atisogbe.
Moi, je n'ai pas de carton. Bonne journée à toutes et à tous.
D'accord. Michel Tchadja.
Bon appétit à tout le monde.
D'accord. Michel Tchadja du journal Ouara Les Vainqueurs. Elom Atisogbe du journal La Nouvelle Tribune. Jean Legrand Polorini du journal Canal D. Et Magloire Teko du journal Flambeau des Démocrates. Merci d'être passé dans l'émission. Je suis Fousseni Saïbou. La technique a été assurée par Michel Tomega, mise en ligne Géraud Akoucha. Vous retrouvez Pascal demain à 11h. À très bientôt.